Donc, ce soir, je reçois Luc Carton, comme vous voyez, il s'écrit, le philosophe chargé de mission à la Direction Générale de la Culture, au ministère de la Culture française, de la ville de Bruxelles. Donc, il va être question de l'avenir des droits culturels. Donc, il y a une question ici, hein, la raison politique pour les pratiques d'éducation populaire, point d'interrogation. Luc Carton vous a donné le plan de son intervention. Je vais l'inviter au micro. Cette séance est enregistrée et ensuite les questions, il y aura aussi un micro, il faudra suivre des questions. Vous aurez un micro pour pouvoir.
Mais vous savez ce que je propose, puisque vous n'êtes même pas. La foule est maîtrisable, hein, oui. On n'a pas besoin de barrer un nada. Donc je propose que chacun se présente, parce que plus c'est intime, évidemment, plus. On a l'occasion de se connaître, forcément. Hein. Il y avait 1000 personnes, ce serait plus difficile de faire un tour de table, mais à 5, ça vaut vraiment le coup. Hein, c'est pas la même chose si vous êtes tous, par exemple, cheminots, ou tous du syndicat du livre. Donc, voilà, mais donc moi, on m'a présenté, je viens de Belgique, hein, nul n'est parfait, je suis philosophe nomade. Je suis accidentellement au ministère de la Culture. Ils ne le savent pas, d'ailleurs. Je vais vous proposer une réflexion dont vous connaissez le titre. Alors, je propose qu'on continue la présentation.
Je commence, Marie-Thérèse Cazeneuve. Je suis adhérente de la Maison Populaire et présidente du bord pour quelques jours. Depuis 8 ans,
j'ai été dans une vie intérieure, je ne sais pas si ça marche, militante politique, je suis toujours un peu. Mais je sépare évidemment ce qu'est la Maison Populaire et ce qu'est l'activité politique. Mais donc, quand on me parle de droits culturels, je sens venir un petit peu une extension des droits de l'homme. Voilà.
Bonsoir, Olivier. J'ai été micro-entrepreneur sur le marché populaire, dans le textile, adhérent donc depuis cette année à la Maison Populaire. J'y pratique 6 activités. Voilà.
Mario, j'habite le président Lindé, je suis à la retraite, j'adhère à la Maison Populaire.
Oui, bonjour Pierre, actuellement retraité, ancien directeur de Maison Jeune de la Culture. Je me rappelle avoir fait un stage avec toi Luc, en l'occurrence avec Franck Lepage.
Oui.
Donc ce sont des retrouvailles, voilà.
C'était où, à Rennes?
Oui, bonjour, Gérard Paris-Clavel, je suis graphiste social. Et voilà, je fais des images et des mots en essayant que la culture participe à la transformation sociale véritable.
Bien, ben merci à toutes et à tous. Donc, de nouveau, puisque nous sommes vraiment entre nous, n'hésitez pas, si je dis des choses qui vous paraissent incompréhensibles, ben n'attendez pas, hein, coupez-moi. On fera un petit arrêt sur ces mots-là. De même, si ça vous semble complètement idiot, à un moment donné, ben dites-le aussi. Hein. Donc, voilà. On est vraiment dans des conditions d'une interaction plus possible que d'habitude. Donc, c'est quoi ce que j'ai le désir de vous dire Ça fait grosso modo une trentaine d'années que je nomadise comme philosophe. Quand je dis nomadiser, c'est que je pense que la philosophie est une discipline qui n'a pas d'autre sens que d'essayer de se mettre au milieu de l'action et d'essayer de travailler la question du langage. C'est ça que j'ai essayé, à ma mesure, de faire depuis une trentaine d'années, dans un contexte que j'appelle un contexte de pratique d'éducation populaire, c'est-à-dire des pratiques dont le peuple est tendanciellement sujet et non pas objet, c'est-à-dire des pratiques d'accouchement du sens de l'existence, et en particulier quand cette existence est traversée de processus de domination, d'aliénation ou d'exploitation. Et ce qui me frappe depuis des années que j'y apprends des choses dans ces pratiques d'éducation populaire, c'est qu'elles sont d'abord très largement désinstitutionnalisées. Elles existent de moins en moins portées par des organisations, des associations, des institutions, et notamment de moins en moins les organisations du mouvement ouvrier. Et il me semble aussi que ces pratiques sont implicitement ou explicitement en recherche d'un, ce que j'appelle ici, un horizon politique. Quand je parle d'horizon politique, j'ai mis expressément le mot en italique pour indiquer que je désigne ici la catégorie philosophique du politique, c'est-à-dire la question de la conduite de la cité et en particulier là-dedans la question du pouvoir et du contre-pouvoir. Donc je n'ai pas réduit la question au champ politique, aux acteurs politiques et aux partis politiques. Et donc l'intuition générale de mon exposé, c'est de dire qu'il me semble que je peux discerner intellectuellement qu'il y a de plus en plus de raisons de penser et de raisons de faire, de penser et de faire, que ce qu'on appelle le travail de la culture, c'est-à-dire l'interrogation sur le sens de ce qui se passe, par les voies et moyens, pourquoi pas, de la science, de l'art, d'un ensemble de pratiques qui permettent d'attribuer du sens aux phénomènes sociaux. Donc, je dirais, je me résume sur mon intuition générale, ce travail de la culture est de plus en plus essentiel pour refonder ce qu'on pourrait appeler un horizon politique, ce qu'on appelait dans le temps une idéologie, ce qu'on pourrait appeler une utopie. Je crois que c'est Étienne Balibar, il y a déjà une vingtaine d'années, qui écrivait, je trouve très joliment, que après les utopies, il s'agissait de refonder l'imaginaire du présent. J'adore cette périphrase. Elle résume peut-être tout entier ce que j'ai envie de mettre en discussion ce soir. Après les utopies, comme pensée à donner, il reste l'imaginaire du présent, c'est-à-dire il reste à reconnaître que c'est entre nos mains, entre nos vies, qu'il est possible de dessiner un avenir désirable. Et donc cette périphrase, après les idéologies ou après les utopies, refonder l'imaginaire du présent, dépose entre nos mains ou entre nos vies une responsabilité qu'on avait confiée dans le temps, de manière un peu mythique, aux responsables de partis, aux responsables d'églises, aux producteurs, aux grands producteurs d'idéologie. Et donc, mon premier chapitre, ou ma première approche pour fonder cette intuition générale, est d'évoquer ce qu'on peut appeler, pour moi, les signes d'une crise générale de la représentation du monde. C'est assez facile à vérifier de manière très pratique. Vous pouvez le faire dans tous les cercles dans lesquels vous existez, vous travaillez, vous méditez, y compris avec vos plus proches. Faites l'expérience, notamment sur les trois exemples que je vais effleurer, de voir s'il existe autour de vous, entre vous et vos proches, une représentation stable et durable du monde. Essayez. Le thème sur lequel je l'ai fait le plus souvent, c'est l'école. Essayez de réunir, mettons, une vingtaine d'enseignants, ou une vingtaine d'enseignés, ou une vingtaine de parents, et demandez-leur, sur une petite feuille de papier, en 5 minutes, de dire en 5 lignes ce qu'est une école. Et puis vous ramassez les feuilles et vous regardez. Et vous verrez qu'il n'y a plus aucun consensus sur ce qu'est l'école. ni sur ce qu'elle est, ni même sur ce qu'elle pourrait être. Que vous le demandiez en termes descriptifs, c'est quoi une école ? Ou en termes normatifs, que devrait-elle être ? Vous aurez par exemple 3 paquets de réponses. Hein, d'expérience, je peux vous dire qu'il y a 3 paquets. Un paquet qui dit l'école est un lieu d'instruction et de transmission d'un héritage. Ce n'est pas faux. D'autres diront non, l'école est un lieu d'éducation d'un individu complexe. Ce n'est pas idiot. Et d'autres encore diront l'école est un lieu où on accède à la pratique des savoirs, donc c'est un lieu de formation. Ben oui. Mon tout petit rôle à moi est de dire s'il y a 3 définitions de l'école, qui sont en fait 3 définitions historiques, qui se sont progressivement sédimentées et mises ensemble, il est probable que de définir ce qu'est une école suppose aujourd'hui, pour que l'école ne soit pas un lieu de violence et de ségrégation, que l'école soit le lieu où l'on discute de ce qu'est une école. Ah. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a de résolument nouveau dans notre perception du monde, dans la perception que nous pourrions organiser du monde, c'est que l'école est le lieu où il deviendrait indispensable pour que l'école vive de discuter de ce qu'est une école. Donc, de procéduraliser l'inconnu, si vous voulez, pour le dire de manière un peu plus élaborée, ou, comme le dit un philosophe Marcel Gauchet, un philosophe de chez vous, mettre l'école à l'école d'elle-même, c'est-à-dire reconnaître qu'elle est, certes, un grand service public, laïque et unifié, tout ce que vous voulez, mais surtout une inconnue pour ses praticiens, une inconnue pour ses enseignants, une inconnue pour les travailleurs sociaux et culturels éventuellement associés à l'œuvre éducative, une inconnue pour ceux qui accèdent à un avenir impensable, c'est-à-dire ce qu'on appelle les jeunes, hein, et une inconnue pour ceux qui ont essentiellement peur de confier leurs enfants aux écoles dans un contexte comme celui-là. Voilà l'exemple de l'école. Je vous assure, vous pouvez essayer partout où vous allez. Plus vous ouvrirez la boîte noire de l'école, plus vous verrez qu'il y a là un système d'inconnus qui, jusqu'à présent, n'accepte pas le niveau de réalité que nous sommes en train de découvrir, à savoir que l'école est un lieu de tension et de contradiction démocratique. Et qu'à force de le refouler, ça devient forcément un lieu de violence. De violence faite aux travailleurs qui ne peuvent pas exprimer les contradictions qu'ils y vivent, ce sont les enseignants, les travailleurs sociaux et les travailleurs culturels associés, la violence forcément des enseignés et la violence de ceux qui confient leurs enfants et leurs jeunes à cette institution. Ce n'est pas tout à fait par hasard que je prends l'école, puisque c'est l'institution centrale de la modernité. Il n'y a pas d'école telle que nous la connaissons dans des sociétés pré-industrielles et dans des sociétés pré-démocratiques. C'est bien parce que la société se change qu'il est nécessaire d'isoler dans un endroit particulier, à l'écart des rapports sociaux, la question de la transmission de la connaissance et de la culture. Mais deuxième exemple d'inconnu majeur ou de crise générale de l'ordre du jour, c'est la question de l'emploi. La question de l'emploi et du travail, c'est d'ailleurs pour ça que le séminaire dans lequel on se situe porte un magnifique intitulé. Si je continue la même exploration sur le registre de la découverte des inconnus, que se passe-t-il du côté du travail et de l'emploi ? Mais d'abord, un paradoxe relativement insoutenable, que l'on connaît hélas trop bien en France, en Belgique, dans toutes les ce qu'on appelle les démocraties libérales, à savoir qu'il y a une partie importante de la population qui est dont on organise la privation d'accès à l'emploi. Il y a une partie importante de la population qui s'ennuie ou se déqualifie dans le travail à l'emploi. Il y a une partie importante de la population qui est surexploitée, aliénée et dominée dans son travail. Et pourtant, dans les 50, 60 ou 70 dernières années, nous avons accumulé des capitaux scolaires, des capitaux culturels, bref, des instruments largement distribués dans la société, même si c'est de manière très inégale, néanmoins largement distribués dans la société. Nous avons distribué des capitaux culturels et scolaires qui sont soit écartés, soit abîmés dans le système productif. C'est-à-dire que les compétences potentielles des travailleurs employés n'arrêtent pas d'être sollicitées plus haut. L'exemple le plus simple étant un facteur, un postier, hein, est engagé aujourd'hui à bac ou bac plus 2. Mais le métronome est passé par là. On l'autorise moins à faire dans son travail que ce qu'il ne pouvait y faire quand il était engagé à bac moins 4. D'accord ? Alors, il se crée donc dans les rapports de production ce que j'appelle, moi, depuis plusieurs années, un gigantesque surplus de culture, c'est-à-dire un surplus de capacité d'attribuer du sens à ce que l'on fait dans le travail et qui est institutionnellement défini comme inutilisable. Surplus de culture des infirmières dans le système et des aides-soignantes dans le système socio-sanitaire. Surplus de culture des travailleurs culturels et des enseignants dans l'enseignement, toujours organisé comme une usine, distribuer des morceaux de connaissances sur des tranches d'enfants pendant des blocs d'heures, même si, par ailleurs, on demanderait bientôt aux instituteurs d'avoir fait bac plus 7. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a, du côté de l'emploi, du côté du système productif, une incapacité structurelle d'accueillir la création de chacun. C'est évidemment encore beaucoup plus vrai quand on va voir ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle l'état social actif, c'est-à-dire les modes de gestion de la pénurie d'emploi ou les modes de mobilisation ou d'extorsion de la force de travail des travailleurs sans emploi. En Belgique comme en France, comme dans toutes les démocraties libérales, on observe que la chose qui est a priori proscrite dans le statut du chômage, c'est l'activité créatrice. On a en Belgique plusieurs procès sur les bras de personnes sans emploi écrivant un livre ou de personnes sans emploi faisant un travail de clone dans les hôpitaux et poursuivies en justice pour ce faire. Troisième inconnu de l'ordre du jour, c'est l'inconnu de la ville, qui est un peu la synthèse de ce qui précède. Hein. Si nous ne sommes pas capables d'associer chacun à la production de la société, c'est la question de l'emploi. Si nous ne savons plus exactement comment transmettre la connaissance et la culture et permettre aux générations montantes d'accéder aux rapports sociaux ordinaires, en synthèse, la ville définie comme l'œuvre d'être ensemble n'est plus pensable. Ce qui veut dire que la ville devient le lieu de la peur ou de la ségrégation, ou de ce que alors les sociologues appellent la naturalisation des inégalités sociales, que ces inégalités soient alors attribuées aux jeunes, aux vieux, aux femmes ou, bien sûr, aux étrangers. Ce qui m'importe à travers ces trois exemples, c'est de nous amener à une réflexion précise qui est le caractère indisponible de la représentation du monde. Le caractère indisponible, ou je ne dis pas indisponible pour chacun, je dis indisponible pour le plus petit groupe que l'on puisse créer, par exemple le nôtre ce soir. Ce qui veut dire que nous sommes dans une situation que l'on peut définir comme une situation de privation de la conflictualité. La privation de la conflictualité, un chouette sociologue français, François Dubé, en parlait il y a déjà très longtemps, au moment des premières émeutes urbaines en France, au Minguette en 82, si mon souvenir est bon. Il disait « L'émeute est le signe d'une absence de conflit ». Je crois que cette thèse-là est devenue une thèse générale, et non plus une thèse particulière, ce n'est pas dans les quartiers dissensibles qu'il y a un déficit de conflictualité, c'est dans l'ensemble des rapports sociopolitiques qu'il y a un déficit de conflictualité. C'est-à-dire qu'il est devenu difficile, périlleux, probablement trompeur, de construire cette conflictualité à partir des catégories disponibles de la conflictualité politique ou de la conflictualité sociale. Alain Touraine a sorti récemment un ouvrage sur ce thème-là, dont le titre exact, je l'ai ici, vous le connaissez peut-être, dont le titre exact est très proche de cette question de la représentation du monde. Est-ce que j'ai mis ça ? Bon, je retrouverai tout à l'heure, vous me le rappellerez. Il développe la thèse, j'entre donc dans la section 2, il développe la thèse qu'effectivement, nous vivons une troisième époque de la métamorphose des conflits dans les sociétés capitalistes. Première époque de la conflictualité politique, largement engagée au XVIIIe siècle et jusqu'à la moitié du XIXe. Comme Jacques Donzelot, toujours un chouette sociologue de chez vous, il origine autour de 1850, avec la symbolique des barricades de 1848, ce qu'on appelle l'invention du social, c'est-à-dire le glissement de la conflictualité générale de la société du champ politique vers le champ social. Et il propose d'envisager que nous vivons depuis le début des années 70 du XXe siècle, donc il y a une quarantaine d'années, l'entrée dans ce qui serait la conflictualité culturelle autour du capitalisme. Ça coïncide admirablement bien, je trouve, avec ce qui est peut-être le changement le plus fondamental dans notre horizon depuis la Deuxième Guerre mondiale, à savoir la capacité du capitalisme à incorporer la culture dans son sens le plus général, comme un moyen de production et comme un produit. Et donc, comme le principal levier d'accumulation de ce qu'alors les auteurs appelleront le capitalisme informationnel. S'il y a bien une chose dont j'ai envie de vous communiquer le sens en disant cela, c'est ceci, c'est que pour la première fois depuis l'époque très largement révolue où le mouvement ouvrier était révolutionnaire, difficile de se battre sur ces datations, mais enfin pour moi ça remonte plutôt dans le troisième quart du 19e siècle. Donc pour moi ça remonte très loin, le moment où le socialisme ou le communisme, si vous voulez, est capable de nous proposer un horizon. Mais pour la première fois pour moi, depuis cette époque-là, quand on dit que la conflictualité autour du capitalisme est aujourd'hui de nature culturelle, ça veut dire que pour moi, pour la première fois depuis à peu près 150 ans, nous pouvons poser la question de l'ordre du jour. Vous voyez, donc, il y a certes une extraordinaire difficulté à évoquer des pistes et des horizons pour l'action collective aujourd'hui. Je reconnais que je n'ai pas plus que quiconque la moindre baguette de mots magiques pour nous sortir de là. Par contre, je voudrais que vous puissiez penser, que nous puissions penser ensemble ce soir, l'extraordinaire événement que signifie la conflictualité culturelle sur le capitalisme, c'est que pour la première fois depuis 150 ans, nous pouvons interroger le sens de la production, le sens de ce qui est produit par le système capitaliste, le sens ou le non-sens, donc forcément, de ce qui est produit dans les usines, le sens, le non-sens de ce qui est produit dans le travail, et donc le sens, le non-sens de ce qui est produit dans la vie quotidienne, puisque, étant donné que nous sommes dans une société dite de service, où la production concerne de plus en plus d'aspects de la vie quotidienne. C'est aussi comme usager, comme consommateur, que nous sommes évidemment impliqués dans ce non-sens. Et donc, pour le dire encore de manière plus brève, la question de la démocratie économique, qui était l'horizon idéologique du socialisme révolutionnaire dans le troisième quart du XIXe siècle, est aujourd'hui une question plausible. Je veux dire, un conflit à ouvrir à nouveau. Un peu comme si la parenthèse de ce qu'on appelle le compromis social-démocrate devait nécessairement se refermer. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le compromis social-démocrate, on organise la société sur deux colonnes. Une colonne sur l'économie, et dans cette colonne, on met, dans les responsabilités patronales, l'organisation du système productif. Et puis une colonne qu'on appelle sociale, et sur cette colonne, on définit des droits individuels et collectifs qui touchent à la consultation et à la concertation, mais sachant que l'économie est définie par ailleurs. Donc le social n'est qu'une variable dépendante. Et donc ma métaphore, l'idée de mon exposé est simplement de dire il manquait une colonne. C'est la colonne culture. Pourquoi ? Parce qu'elle était dans la colonne économie. Le sens de la production était défini comme indiscutable. Ce qui a un certain sens à l'époque. Hein. N'oublions pas qu'on est en train de s'électrifier, si j'ose dire. On est en train de construire des routes, de construire des chemins de fer, de construire des bâtiments, de construire des machines-outils. Donc on n'est pas dans une phase du système productif où on a tendance à s'interroger sur le sens de ce qui est produit, puisqu'on est dans, grosso modo, la création des infrastructures. Aujourd'hui, il y a de quoi se poser la question du sens de ce qui est produit dans le système médico-socio-pharmaceutique, par exemple, dans le système culturel, formatif, enseignement, dans le système mobilité, aménagement du territoire, logement, patrimoine foncier, dans le système, bref, dans ce qu'il faudrait appeler des fonctions collectives. Et donc, dans ce deuxième petit chapitre, je nous invite à traverser trois grandes mutations. Qu'est-ce qui nous conduit à ce que la culture devienne l'enjeu central de conflits potentiels ? Qu'est-ce qui nous conduit à pouvoir commencer à esquisser un horizon pour des pratiques d'éducation populaire ? Mais trois phénomènes connus. D'une part, la mondialisation. D'autre part, j'ai perdu ma deuxième feuille, voilà. Je la trouve, elle est là. D'autre part, la tertiarisation et enfin la marchandisation. Qu'est-ce qu'on entend par mondialisation ? Ici, très simplement, la désarticulation des arrangements territoriaux. Une manière très, très, très jolie de voir ça est de prendre une carte de l'Europe aujourd'hui avec les lignes de chemin de fer rapides entre les villes. Si vous dessinez la carte à l'échelle de la vitesse de transport entre les villes, vous verrez que Paris est à côté de Bruxelles, mais que la banlieue de Bruxelles est très loin de Bruxelles. Oui. Donc si on déforme la carte en y intégrant la notion de temps, on verra qu'il y a une polyville européenne qui est celle effectivement des dirigeants et qu'il y a un éloignement de l'urbanité pour les gens qui sont astreints à d'autres modes de transport. Donc, la mondialisation fait que dans les espaces locaux, des pouvoirs qui ne sont pas locaux interfèrent lourdement sur les destinées. Le deuxième processus que j'appelle tertiarisation, c'est la tendance à l'incorporation massive de culture dans le système productif. Et au bout du processus d'incorporation de culture dans le système productif, c'est potentiellement l'industrialisation du vivant ou l'industrialisation des modes de vie. Ça se complète par un troisième processus qui est celui de la marchandisation, la tendance à la marchandisation généralisée, c'est-à-dire la tendance à ce qu'un système d'action qui est celui de l'entreprise marchande, puisse avoir accès aux autres espaces, puisse coloniser les autres espaces, qu'étaient les espaces-temps civils, d'une part, et publics, d'autre part. Vous me direz que c'est un peu compliqué, un peu abstrait ou un peu rapide, c'est vrai, mais le parcours ne se veut pas ici du tout encyclopédique. Je veux nous amener à une réflexion, qui est que ces trois métamorphoses, la métamorphose de l'arrangement des territoires, mondialisation, la métamorphose des systèmes d'action, marchand, civil, public, donc la marchandisation, et la métamorphose de la tertiarisation, c'est-à-dire l'économique, le social et le culturel, ces trois métamorphoses, je pourrais les dessiner chaque fois comme un ensemble de patates, si vous voulez, trois ensembles avec un croisement, ce que tu es en train de dessiner. Non ? Eh bien, je pourrais chaque fois établir un théorème pour évoquer ces mutations, c'est la fin de la division du travail. Fin de la division du travail entre territoires. Ici, c'était l'Allemagne, là, c'était la France, ici, c'était la Belgique. Bien, vous avez un territoire, maintenant, enchevêtré, donc dans lequel la division du travail est ouverte à des jeux d'influence et de pouvoir comme ils ne l'ont jamais été. La tertiarisation, elle provoque, entre les champs culturels, sociaux et économiques, un entrelacement, une superposition ou une interdépendance qui fait qu'il sera difficile, désormais, d'isoler ou de zoner chacun de ces champs. C'est ce que Annie me décrivait tout à l'heure en vous attendant. Elle évoquait des circulaires ou des textes du ministère de la Culture qu'elle découvrait avec horreur et dans lesquels, effectivement, on attend de la culture qu'elle contribue à la performance et à d'autres innovations évidemment non définies. Bref. Donc, l'unité de pensée de ces trois mutations, c'est que la division simple du travail entre territoires, entre acteurs et entre champs, c'est terminé, pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire, c'est connu. On peut envisager que la marchandisation, c'est la colonisation par un acteur dominant. On peut envisager que la tertiarisation, ce soit effectivement un système dans lequel l'économique surdétermine ce qui était autrefois l'autonomie d'un champ social ou l'autonomie relative d'un champ culturel. Et on peut enfin envisager, dans les arrangements de la mondialisation, que des pouvoirs d'État ou des rassemblements d'État, l'Europe forteresse en est un exemple, l'OCDE, le Club des pays riches, en est un autre exemple, que donc des États-nations rassemblés puissent effectivement s'imposer ou imposer leurs lois durablement aux autres. Donc, à travers ces trois mutations, à travers les trois dislocations de la division du travail classique, on peut voir, avec beaucoup de signes tangibles, un processus dans lequel il y a une domination comme on n'en a jamais connu dans l'histoire, puisqu'elle touche effectivement les manières de voir et de croire. Donc c'est un peu plus puissant que la critique que l'on pouvait faire de l'impérialisme il y a une centaine d'années. Mais c'est là l'importance pour moi de la notion d'ambivalence. Si le marché s'aventure dans nos vies, par exemple, il s'aventure dans un endroit, dans un espace-temps, où nous pouvons lui poser des questions qu'on avait totalement perdues de vue sur le sens du marché, c'est quoi faire son marché, sur le sens de l'économie, c'est quoi produire, ou sur le sens de ce qui nous rassemble dans un territoire, c'est quoi la France, c'est quoi l'Europe, ou c'est quoi la table de conversation des peuples. Donc, troisième temps de la réflexion, s'il y a une chose certaine avec ces trois crises de la division du travail, c'est que l'individu moderne, donc nous 4, 5, 10, nous 12 ce soir, nous sommes tous d'une manière ou d'une autre, au cœur d'un système de contradictions dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est extraordinairement complexe. Ça, c'est une certitude. C'était tout de même plus simple quand je pouvais dire que j'étais belge, vous voyez. Si la table de conversation est ouverte quasiment à l'infini, ça veut dire que, comme militant belge de gauche, je vais devoir prendre en compte la question du pasteur sahélien, hein, et de l'ouvrier de Montreuil, enfin non, des autres de Montreuil. Enfin bon, voilà. Oui. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la table de conversation et le sujet de conversation, le sujet est une inconnue et la table est ouverte à l'infini. On peut comprendre que ça provoque un certain désarroi. Et donc, ça ouvre à trois scénarios. Il y a un scénario d'évitement de cela. C'est le scénario libéral de marchandisation généralisée. Vous aurez remarqué que ce qui se marchande ne se discute plus. C'est une des choses évidentes quand on doit imaginer la tâche d'un gouvernement, c'est qu'évidemment, moins il y a de choses publiques, moins l'ordre du jour de la chose publique à gouverner est complexe. Et plus il y a des arbitrages qui se font dans l'ordre privé. Donc on peut dire que le scénario libéral de marchandisation est un scénario d'évitement ou d'organisation de l'évitement de la complexité dans laquelle sont aujourd'hui les démocraties libérales. Il y a évidemment une autre manière d'envisager l'évitement. Vous sentez bien que dans le champ politique, c'est une chose qui est extrêmement déterminante aujourd'hui, extrêmement pesante. C'est tout à l'encontre de cette situation de l'homme moderne qui est à la fracture des territoires, à la fracture des champs et à la fracture des systèmes d'action, c'est évidemment de retourner à des principes d'unité. Vous voyez ? Nous sommes exposés à tant de contradictions qu'une des manières de traiter cette situation est évidemment de nous réunifier. Donc d'en retourner par exemple à une société patriarcale, d'en retourner à des rapports entre les hommes et les femmes ou entre les blancs et les pas blancs ou entre les riches et les pas riches, qui sont des scénarios d'ordre. On peut aussi voir là-dedans évidemment un gisement prodigieux pour le retour au grand ordonnateur, hein, c'est-à-dire au rôle du religieux en politique. Il y a évidemment un troisième scénario qui suppose d'accepter de penser une chose qui me semble tout à fait évidente, c'est que dans une pareille complexité, s'il y a bien une chose qui ne peut plus marcher, c'est le fait d'être représenté, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il n'y a pas de représentation culturelle stable, durable du monde, si donc la perspective de l'idéologie ou de l'utopie est appelée à être remplacée par le travail de l'imaginaire du présent, comme disait Balibar, le scénario qui nous s'offre à nous, je dis bien que c'est une véritable offrande, c'est entre nos mains disponible, c'est un scénario d'approfondissement de la démocratie. Il n'est plus possible de continuer à s'habituer à la distance, qui fait que le travail démocratique sera fait par d'autres, en notre nom. Nous sommes obligés d'habiter la distance. C'est donc un scénario que j'appelle libertaire, d'approfondissement des démocraties dans sa dimension culturelle. C'est-à-dire, comment peut-on imaginer, dans les différentes séquences de la vie sociale, que cette vie sociale puisse être conduite demain de manière plus égale, plus émancipée, moins aliénée et moins dominée, tout simplement parce qu'on en discuterait à égalité. C'est ça l'idée de définir demain des droits culturels approfondis ou, si vous voulez, les dimensions culturelles des droits sociaux et les dimensions culturelles des droits politiques. pas autre chose en fait que ce qui était par exemple annoncé, mais si peu déployé dans la promesse des lois Auroux en 1982. Bien sûr, ça a terminé en peu de choses. Mais il y a là, pour moi, le gisement qui peut autoriser de dessiner un horizon à des pratiques d'éducation populaire, à savoir travailler l'émancipation des rapports de production par la conquête de temps et de droits à délibérer entre travailleurs du sens de la production, ce qui suppose de définir de manière coextensive, en face, dans la société, du temps, des droits et des moyens pour discuter du sens de cette production quand elle arrive dans la société. Puisque comme on n'en est plus à fabriquer des machines-outils ou des rails de chemin de fer, mais des produits et des services complexes, ces produits et ces services complexes participent d'une vie sociale qui n'attend qu'une chose, c'est d'être mise en discussion. De même, l'ensemble des services publics qui pouvaient être conduits de manière régalienne quand nous étions très petits, il y a 100 ans, supposent aujourd'hui, pour rester service public, d'être radicalement démocratisé, c'est-à-dire d'être investi de l'intelligence individuelle et collective des travailleurs des services publics, de l'intelligence individuelle et collective des usagers des services publics, et surtout, sans les oublier, autrement on tombe dans le consumérisme des citoyens. On a besoin, par exemple, dans cette perspective-là, d'élections de conseillers scolaires qui permettent à des citoyens qui ne sont ni enseignants, ni enseignés, ni même parents d'élèves, de devenir des conducteurs de services publics. Mais comme au Moyen-Âge, on a bien dû, à un moment donné, faire en sorte qu'il puisse y avoir des conseillers municipaux. La complexité de la société aujourd'hui invite à ce que l'ensemble de ce que j'ai appelé des fonctions collectives puisse être investi démocratiquement par la réflexion tant des travailleurs que des usagers que des citoyens. Voilà, me semble-t-il, ce qui... Vous me direz que c'est procédural. C'est-à-dire que, pour la première fois, effectivement, dans l'histoire politique, ce qui serait proposé là n'est pas une forme d'achèvement, c'est-à-dire, je peux vous dire à quoi ressemble la société désirable. Ça, c'est l'ordre du politique tel qu'il se présente à nous. Ici, c'est plus modeste et c'est peut-être plus exigeant aussi. Le propos n'est pas de dire voici comment la société peut être, mais voici comment il est possible d'imaginer la production de la société. Donc c'est à la fois plus modeste et, à mon avis, beaucoup plus exigeant. Ça suppose donc de cheminer vers la définition d'un conflit relativement unifiant, qui est un conflit sur le temps des travailleurs, sur le temps des citoyens et sur le temps des usagers. Et qu'une fraction de ce temps puisse être progressivement conquise et réaffectée à des fins collectives. C'est ça l'idée de l'horizon politique de pratique d'éducation populaire. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les écoles, pour citer ces deux lieux-là, parce que ce sont des lieux, à mon avis, très essentiels et pleins de souffrance aujourd'hui, ce sont des lieux dans lesquels cette émancipation, dans lesquels le désir de cette émancipation est potentiellement immense. Donc je pense qu'il y a, si vous voulez, des énergies sociales, des énergies associatives, des énergies syndicales, des énergies individuelles et collectives qui pourraient converger sur un enjeu comme celui-là. Peut-être que, sur le plan de la culture des institutions ou des associations, une des choses les plus les plus prometteuses et les plus difficiles là-dedans, pour moi, c'est l'évolution du syndicalisme. Je sais bien qu'en France, vous n'êtes pas très, très bien servi par l'histoire que vous vous êtes donnée avec ce qui reste d'organisation syndicale. Dans mon pays, il y a encore 70% de gens syndiqués, bien sûr dans un syndicalisme de clientèle et de service, mais ça fait encore tout de même des lieux de rassemblement. C'est déjà ça. Mais tout ce que je dis conduit à devoir penser qu'effectivement, l'horizon syndical, l'horizon des pratiques syndicales dans nos contrées, depuis grosso modo un peu trop longtemps, probablement 120 ou 130 ans, est un horizon d'acceptation du donné économique. Et donc d'une fascination du conflit sur la variable dépendante qu'est le social. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour envisager de déménager la question. Déménager la question, c'est de reprendre, d'envisager le conflit sous l'angle culturel, c'est-à-dire, est-il possible de continuer à discuter du salaire et des conditions de travail sans discuter du sens de ce qui se fait dans l'économie marchande, dans l'économie associative ou dans l'économie publique. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se priver de cette richesse-là. La richesse, donc, de mobiliser l'intelligence, l'expérience, l'intelligence de l'expérience et l'expérience intelligente que les travailleurs, les usagers et les citoyens ont de ces fonctions collectives. Pour moi, le mot « éducation populaire » ou les pratiques d'éducation populaire ont en tout cas ceci comme énergie motrice, c'est la confiance dans cette expérience du travail, dans cette expérience de l'usage, ou dans cette expérience de la ville, ou de l'espace commun. Donc, ce que j'appelle l'enjeu des droits culturels, c'est donc de sortir d'une conception capacitaire de la démocratie et d'entrer dans une conception de la démocratie où il est nécessaire de structurer cette confiance généralisée dans les capacités individuelles et collectives d'attribuer du sens à la vie sociale. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, trop complexe, mais ça me semble que ça vaut la peine qu'on envisage peut-être une discussion maintenant. Gérard.
Une question ou des échanges. Moi, je suis... Ça marche, là ? Oui, ça marche. Non, pour moi, c'est... Mais la pensée, c'est bien d'en faire le trajet, mais c'est le passage à l'acte qui me préoccupe. C'est-à-dire que toutes ces dernières années, moi, j'ai eu la chance d'être dans des relations de lutte ou des relations d'apprentissage qui m'ont nourri. Mes difficultés, elles viennent de pratiquer des expérimentations de cette pensée dans des actes concrets. Sous peine de d'emmagasiner des désirs et de les refouler parce que j'arrive pas à éjaculer tout ça. Donc c'est quand même déplaisant. Alors voilà, le problème c'est quelles sont les formes de passage, comment peut-on ensemble imaginer et expérimenter, même modestement, des passages à l'acte, des transmissions de ce savoir dans des expérimentations, dans des passages à l'acte. On voit bien en France actuellement, il y a énormément de groupes qui réfléchissent. La pensée, je trouve, ces dernières années, c'est énormément amplifié en qualité. Il y a beaucoup de rassemblements. Récemment, on a vu l'appel des appels, beaucoup d'intellectuels, de professions, de couches moyennes, qu'on ne voyait pas trop dans les luttes, qui commencent à s'inscrire. Il y a énormément de choses. Mais en même temps, l'impossibilité de passer une organisation concrète qui mettrait dans la vie courante cette pensée critique. Et puis aussi, une autre donnée que j'aimerais bien mettre dans une discussion, c'est qu'on est quand même dans une culture des luttes de la résistance à tout, et qu'on est de moins en moins partisan de quelque chose. C'est-à-dire que l'absence de désir ne permet pas de lever un mouvement de construction d'une lutte. On est simplement dans une résistance plus ou moins désespérée.
Je propose qu'on envisage la discussion comme de manière coopérative. C'est-à-dire que ce que vient de dire Gérard n'est pas nécessairement adressé à moi, mais adressé à nous. D'accord. Donc, s'il y a par exemple des réflexions sur le passage à l'acte, n'attendez pas que moi je le dise à votre place, dites-le vous. Hein.
Alors, pour peut-être que pour décoloniser les imaginaires, il faudrait apprendre aux enfants déjà à s'alimenter correctement et avec des aliments de qualité, sans produits chimiques, par exemple. Voilà une petite idée qui me vient comme ça au passage.
Alors, passage à l'acte collectif, c'est vrai que c'est, comme dit Gérard, ça vient pas. Mais je me rends compte qu'individuel, moi je fais beaucoup de résistance.